Grosse dictature. Vous l'entendez peut-être, c'est DJ Staline. Oui, oui, ça existe. Et comme une dictature en entraîne souvent une autre, ils sont là, ils ont presque piraté le studio. Bon, piraté avec notre accord, parce que finalement, on les aime bien. On vous les présentera plus tard, puisque un son vaut mille mots. C'est tout de suite, c'est à eux, c'est Alerte Niveau 5 qui s'empare du studio de Radio Esperanza pour une grosse dictature. Ça va bruisser.
Nous ne savons pas, nous ne savons pas encore ce que peut peu encore sonore.
Considéré d'un point de vue guerrier, l'oreille est une cible vulnérable. On ne peut pas la fermer. On ne choisit pas ce qu'elle entend. Et les sons qui l'atteignent peuvent modifier profondément notre état psychologique ou physique. L'usage du son offre cet avantage admirable pour le pouvoir qui permet d'obtenir les mêmes résultats que d'autres armes dites non létales. Chapitre 1. Les oreilles n'ont pas de paupières.
Vibrations mécaniques, signal sonore, onde sonore,
entendre.
Oreille externe, oreille moyenne, oreille interne. Fréquence, infrason, ultrason, domaine d'audibilité, fréquence fondamentale, son pur,
sonore,
son complexe,
n'est pas
fréquence harmonique,
un état d'âme,
timbre, bruit, qui sont de basse, effet extra-auditif, fréquence de résonance, amplitude, pression acoustique, niveau sonore, salle d'audibilité, déficit auditif temporaire, surdité de perception, surdité de transmission, niveau de gêne, seuil de douleur, acouphène, onde de choc, bang, blast,
appelé,
diffraction, chambre sourde, chambre réverbérante, écho, sonar, onde en phase, en opposition de phase, onde stationnaire, directivité du son, transmission aérienne, transmission solidienne.
Chapitre 2. De le rayon de la mort. Infrasons et basse fréquence. C'est le domaine des infrasons et des basses fréquences qui a d'abord intéressé chercheurs et militaires.
Fin des années 1950, professeur Vladimir Gavreau, acousticien français. J'étais en train de travailler dans mon bureau avec un ingénieur. Lorsque nous fûmes soudain pris de sérieux malaise, nous avions l'impression que nos têtes allaient éclater et rapidement cela devint insupportable. Très intrigués, nous avons voulu en avoir le cœur net et bientôt nous décelions la présence d'infrasons à très basse fréquence, donc inaudibles. Peu après, nous localisions l'émetteur. C'était un ventilateur géant que l'on avait installé le jour même dans un bâtiment voisin qui émettait en tournant une fréquence de 7 Hz. Se comprimait périodiquement, ce qui était à la fois extrêmement douloureux et potentiellement dangereux.
Au début des années 1990, les États-Unis lancent une action concertée de recherche sur les armes acoustiques non létales. Ils cherchent alors à se doter de quatre types d'armes acoustiques. 1. Une arme de faible portée, de type fusil ou canon à eau acoustique, pour des missions de maintien de l'ordre ou de sauvetage.
Mais, mythe ou réalité, après plus d'un demi-siècle de spéculation et de multiples programmes de recherche militaire et industrielle, l'influence réelle des machines infrasoniques existantes sur l'organisme semble en fait se résumer à quelques frissons et quelques tremblements.
Chapitre 3. Frappé par un mur d'air explosé.
À faible intensité, les impulsions sonores ont le même impact sur l'oreille qu'un son continu. En revanche, à forte intensité, le brusque changement de pression lié à l'onde de choc affecte l'organisme plus violemment qu'un son continu, après quelques expositions seulement, voire une exposition unique. Quelques millisecondes d'exposition à 200 décibels entraîne une fissure des poumons, et à 210 décibels, les hémorragies internes occasionnées peuvent causer la mort par suffocation ou obstruction des vaisseaux sanguins.
Wunderwaffen, littéralement, les armes merveilleuses. Nom donné par le ministère de la propagande au programme d'armes expérimentales du Troisième Reich. Comme le canon à vortex, un mortier encastré dans le sol envoie un projectile rempli de poudre de charbon et d'une faible charge explosive. Une fois libéré dans l'air, la poudre explose, un vortex se crée. Le vortex donne l'impression de recevoir un seau d'eau glacée dans la poitrine.
L'armée israélienne a inventé un canon à onde de choc de grande ampleur. Le franchissement du mur du son à basse altitude par les jets de combat de l'aviation militaire. En 2005, des milliers de vitres sont brisées et des fissures apparaissent sur certains murs. Les Palestiniens comparent le son à un tremblement de terre ou à une énorme bombe. Ils disent que cela fait l'effet d'être frappé par un mur d'air, que c'est douloureux pour les oreilles, que cela peut causer des saignements de nez et vous laisse tout tremblant. Bang, supersonique, crise d'angoisse, incontinence urinaire, spasme musculaire, perte temporaire d'audition et difficulté respiratoire.
Flash, bang, blab. L'efficacité des explosions tient en trois interjections de bandes dessinées. Brèves et ne laissant souvent pas de traces visibles, elles font pourtant plus de dégâts que les mythiques infrasons. Chapitre 4. Totalement coupé de l'univers connu, silence et saturation.
Et puis le son n'est alors plus employé uniquement pour ses effets essentiellement organiques, mais également pour son impact psychologique. Militaires et services de renseignement instituent progressivement ce qui deviendra la privation sensorielle. Le son devient outil de soumission, de torture et de destruction. Obscurité ou pleine lumière, aseptisation ou puanteur, silence total ou vacarme permanent.
Silence. 1970. L'État de la République fédérale d'Allemagne met en place un système de détention spéciale pour les prisonniers de la fraction Armée Rouge, la RAF. Ulrike Meinhof, considéré comme l'idéologue de la RAF, est incarcéré séparément dans le quartier spécial de la section silencieuse de Cologne-Ossendorf. Ce quartier est spécialement aménagé pour être isolé acoustiquement. Ulrike Meinhof. Sentir ta boîte crânienne sur le point d'éclater en morceaux, te sentir devenir muette, impossible de te rappeler le sens des mots, sinon très vaguement, les sifflantes supplices intolérables, sentir le temps et l'espace irrémédiablement imbriqués l'un dans l'autre, et te sentir vaciller, piégé dans un labyrinthe de glace déformante. Et après, la terrible euphorie d'entendre quelque chose qui différencie le jour de la nuit acoustique. Ulrike Meinhof sera retrouvé pendu dans sa cellule en mai 1976 dans des conditions troublantes selon la commission d'enquête internationale.
Saturation. Dans les années 2000, La Maison Blanche fit de la torture son arme secrète dans la guerre contre le terrorisme. Binyam Mohamed, un Éthiopien suspecté d'appartenir à Al-Qaïda, incarcéré et torturé dans une prison de Kaboul, avant d'être libéré sans poursuite. Ils m'ont suspendu à des rails en hauteur. Il y avait de la musique forte. Slim Shady.
Well, the real Slim Shady.
Eminem. Et Dr. Dre. Pendant 20 jours d'affilée. L'ancien détenu évoque aussi la diffusion de bruits de tonnerre, d'avions en train de décoller, de rires sarcastiques et de sons de films d'horreur. Les distorsions sonores produites par les guitares et les articulations vocales semblent être la cause principale de la réaction de frustration et d'irritation.
Chapitre 5. Les cloches de l'enfer. Des fréquences moyennes aux ultrasons.
La musique et le langage n'ont pas attendu la période contemporaine pour être exploités dans un cadre guerrier. La première référence est même biblique. Les murailles de Jéricho, censément abattues par les Hébreux au seul moyen de cris et de trompettes rituelles. Le peuple ovationne, il sonne des chauffards. Et quand le peuple entend la voix du chauffard, le peuple ovationne, une grande ovation, et le rempart tombe sur place. Tambour, trompette, chant militaire, pas de loi claquée au sol par des centaines de soldats, policiers casqués bottés tapant synchrone de la matraque sur leurs boucliers avant une charge. Le son offre à la fois une démonstration de puissance et une communication codée.
Nulle part où dire des haut-parleurs de combat. En août 1941, en Ukraine, une longue colonne de réfugiés de soldats de l'armée rouge en déroute fuit vers l'est. Soudain, des bombardiers allemands J-87 apparaissent dans le ciel et se mettent à bombarder et mitrailler la route. Toute sirène hurlante pour augmenter l'effet psychologique. Les gens s'effondraient sur la route ou couraient dans tous les sens, complètement paniqués.
Nouveauté pendant la guerre du Vietnam. Les avions sont uniquement envoyés en mission nocturne et des hélicoptères sont également équipés de haut-parleurs. Sur les cassettes se mêlent des sons de films d'horreur, des enfants qui pleurent parce que le corps de leur père n'a pas été enterré, des ancêtres qui appellent les soldats à se rendre ou à déserter, la musique funéraire bouddhiste. Bill Rutledge, aviateur engagé dans ces opérations. On était là pour tuer et les cassettes nous y ont sacrément aidés.
Désinfecter la contestation, répulsif sonore, Cuddler, verseur de sang, colonel Applegate. Le Cuddler émet un son perçant, strident, braillant, pulsant, pénétrant. Il interrompra les slogans, les chants, les cris, les battements de mains, les rythmes entraînants et les techniques d'agitation. À courte distance, le son dissonant est si strident qu'il oblige les émeutiers en puissance à fuir, à lâcher leurs armes, banderoles, pancrons, pancartes, etc. afin de pouvoir plaquer leurs mains sur les oreilles.
Le LRAD, Long Range Acoustic Device, dispositif acoustique de longue portée. Il combine une surface concentrée de multiples petits haut-parleurs piézoélectriques lui permettant d'envoyer un son à une amplitude de 121 décibels à 1 mètre et de 153 décibels à 1 mètre en mode alarme. En 2005, le Seaborne Spirit, un avion de croisière, en use contre des pirates somaliens. En 2007, la police géorgienne l'active contre les opposants à Tbilissi. En février 2009, un baleinier japonais s'en sert contre des activistes écologiques de Sea Shepherd, qui s'en sont depuis également équipés. En août 2009, c'est la police thaïlandaise qui a recours à Bangkok pour disperser des travailleurs protestant contre des licenciements à l'égyptien. En septembre 2009, il est envoyé par la police de Pittsburgh contre des opposants au G20.
Le Mosquito est inventé par Howard Stapleton et commercialisé depuis 2005. Il émet des hautes fréquences. C'est une initiative privée et commerciale qui entend imposer en amont un contrôle permanent et zélé de l'espace public.
établi. Un cube d'une dizaine de centimètres de côté à fixer au mur, avec une amplitude pouvant atteindre entre 95 et 108 décibels à 40 mètres et peut fonctionner sur deux modes, adolescent ou tout âge confondu. Sur la fréquence comprise entre 17 000 Hz et 18 600 Hz, il n'incommode en général que les oreilles de moins de 25 ans, puisqu'une des caractéristiques de l'audition humaine, à mesure qu'elle vieillit, est de ne plus entendre les très hautes fréquences.
Un autre dispositif prend place depuis quelques années au lieu des Mosquito sur la façade des magasins. Le haut-parleur ultrasonique. Les ultrasons, employés comme ondes porteuses, permettent de véhiculer à distance un son audible. Un message audible est d'abord converti en ultrasons, dont les propriétés sont d'être inaudibles, de longue portée, très directionnelles et de se réverbérer sur les obstacles. Lorsque l'onde ultrasonique est diffusée par le haut-parleur, le ralentissement et distorsion qu'elle subit et à la traversée de l'air restaurent les fréquences initiales du message. Donc, son audibilité, le haut-parleur ultrasonique accomplit un vieux rêve du marketing créatif, initié directement dans les pensées du consommateur.
Conclusion. Un geste sonore passionné.
Il s'agit aujourd'hui de reprendre conscience du son, de s'en saisir, de parer à sa confiscation sécuritaire et marchande, afin d'en inventer des usages qui nous permettront d'habiter autrement l'espace acoustique et l'espace commun. Si le pouvoir entend investir la vie de part en part, nous œuvrerons à ce que la vie continue de lui échapper dans le domaine sonore comme ailleurs.
Ici, le son, au lieu de contrôler, de surveiller, d'individualiser, se faisait l'instrument du collectif, le nourrissait, le réveillait, l'amplifiait. S'il devenait l'outil d'un désordre jubilatoire, d'une mutinerie festive, d'un renversement. Au début des années 1970, William Burroughs préconisait non seulement l'usage d'infrasons dans les concerts pour faire vibrer le public, mais aussi la diffusion de sons d'émeutes pour créer des émeutes. Je considère le potentiel de milliers de personnes avec des magnétophones portatifs et fixes, des messages transmis comme par des tam-tams, une parodie du discours du président qui monterait et descendrait des balcons, entrerait et sortirait par des fenêtres ouvertes, à travers les murs, par-dessus les cours, qui seraient repris par des chiens en aboyant, par des clochards en grommelant, musique, circulation, descendant des rues, balayées par le vent, traversant les parcs et les terrains de foot. L'illusion est une art révolutionnaire.
Quelle mutinerie! On en reste un peu sans voix, le souffle coupé. C'était Alerte niveau 5 en direct sur Radio Esperanza 106.2 FM à Floref. Ils n'ont pas fini de nous dictater. En fait, c'était un peu... Je vais peut-être vous présenter avant qui se cache derrière Alerte niveau 5, à moins que vous vouliez rester pirate à
moi,
vie. Ces voix, vous les connaissez peut-être si vous nous écoutez souvent sur Radio Esperanza ou les radios partenaires comme Radio Panique, puisque finalement, Alerte niveau 5, c'est un projet qui est né, ou en tout cas qui a décidé de s'insérer un peu bizarrement dans la grille de programmation de Radio Panique.
Oui, projet... Nous n'avons pas de créneau, c'est assez flottant. Les attentats sonores, on ne sait jamais quand ça arrive, donc c'est un peu le concept de cette émission d'improvisation musicale.
Par définition. Et le concept, à proprement parler, de Alerte niveau 5, une mutinerie
Je pense qu'on a à un moment donné voulu faire du bruit pour catharsis, peut-être quelque chose comme ça, et qu'au fur et à mesure, puisque ça fait 7, 8, 9 fois qu'on fait ça, On y a mis des thématiques, on a mis un thème, donc ça peut être la religion, la monnaie, des choses super sympas comme ça. Et puis, vas-y Fred.
Et puis la cuisine, on a aussi fait la cuisine.
On a fait la cuisine. On a fait ça. Et ouais. En fait, on est dans l'idée aussi d'expérimenter aussi les sons, donc avec des dispositifs qu'on crée de manière informatique ou avec de l'électronique et tout ça, mais dans l'idée de tester des choses, je crois. Et c'est assez ouvert, donc on est, je crois, 4, 5, 6 en ce moment, et oui, on sera 25 l'année prochaine.
Oui, on parle d'une œuvre collective, et on va revenir sur votre texte que vous avez puisé chez une certaine...
Juliette Volclair.
Voilà.
Donc, c'est une chercheuse française qui se définit comme indépendante, mais elle est aussi connue parce que elle a encore, je crois, cette émission, L'Intempestive, en tout cas, qui a débuté sur FPP.
Fréquence Paris Pluriel.
Fréquence Paris Pluriel, exactement. Ensuite, sur Radio Galère à Marseille. Et il y a un site très bien fourni qui s'appelle, vous tapez L'Intempestive Radio, vous allez le trouver. Et elle fait beaucoup de recherches, mais entre autres sur le son et la manipulation avec le son. Elle a écrit deux livres. Le plus récent s'appelle Contrôle aux éditions Découvertes. Et le précédent, Le son comme arme et les usages policiers et militaires du son. Et c'est celui sur lequel on s'est basé. Donc tout ce qu'on a dit provient de son livre et de toutes les recherches qu'elle a collectées, qui sont pour la plupart en anglais, donc elle a permis à un public francophone de comprendre un peu à quel point, ben, comme vous avez pu l'entendre, le comprendre, le son est devenu pour l'État, pour la police, pour les militaires, une arme non létale. Alors, il y a tout un débat sur est-ce que c'est létal ou pas, parce qu'on peut mourir de certains sons, mais voilà, c'est une arme comme une autre pour manipuler, pour soumettre, pour contrôler.
Une arme, mais qui pourrait se renverser dans le sens positif du terme, parce que c'est un peu ce qu'elle dit dans sa conclusion, si vous avez bien suivi entre deux Larsen. On parle de prendre conscience du son, et le son pour réveiller le collectif. C'est ce que vous faites en se servant du son de manière collective pour éveiller les consciences peut-être, et aller jusqu'à la mutinerie. C'est un mot qui revient. Finalement, une mutinerie, c'est l'inverse d'une dictature.
On peut utiliser les armes de l'ennemi pour les détourner, et c'est William Burroughs en fait qu'elle cite à ce moment-là, et elle parle aussi d'autres collectifs, d'autres personnes qui pensent que tout le monde peut s'emparer du son, de sa diffusion, et de décider ce qu'on en fait, du bruit ou pas du bruit, et pour faire quoi, je pense. Bonjour Fred.
Bonjour.
Ah, on dévoile vos identités.
Ah pardon, c'est pas Fred.
Non, elle a aussi fait une série de podcasts sur une chaîne publique française sur le sujet. Voilà. Donc on commence par France.
Bip. Voilà.
Et ça termine par vague.
Ok. On va y réfléchir, mais ça sera le deuxième blanc d'antenne de l'émission. On est bien. Donc Juliette Vauclair, qu'on recommande, dont on recommande la lecture.
La lecture et l'écoute.
Et l'écoute.
Beaucoup, beaucoup, beaucoup de podcasts sur son site. Vraiment très chouette.
Alors, comme on est à la radio, on a quand même Kelvin qui vient de faire une petite vidéo de votre performance. Donc, on mettra sûrement des extraits sur le site. Mais peut-être décrire un petit peu votre dispositif.
Il y a un dispositif informatique qui vaut la peine d'être décrit parce qu'il a été créé pour Alerte Niveau 5 par Fred, développé et programmé. Non, c'est pas Fred, c'est vrai.
un développeur anonyme. Qui a permis d'assembler des appareils relativement bon marché pour pouvoir lancer et mettre des effets sur quantité de sons, en plus d'une quantité d'autres et qui existaient de manière existante avant, qui sont disponibles en logiciel libre, où il y a un tas d'outils comme ça.
Et des effets qui donnent à la voix des choses.
Qui, ouais. Non, ça c'est ma voix normale, mais j'ai mal dormi. Hein.
Grosse soirée hier pour toi.
Grosse soirée.
En gros, on avait besoin de lancer des sons et on trouvait pas le logiciel adéquat, et Fred a décidé de créer ce logiciel pour lancer des sons. On l'a dit, on voudrait bien contrôler le volume.
Je l'avais pas trouvé non plus. Ah non, je l'ai fait moi-même.
Voilà, c'est ça aussi, l'esprit libre et l'ouverture dont il n'y a pas, ben vous, si vous savez un petit peu programmer, ben vous pouvez faire vous-même, comme un grand.
Des gros malades.
Et le reste se compose de plein de petits instruments. Ben là, je parle dans un... En fait, c'est le haut-parleur d'un vieux téléphone. Vous savez, les vieux téléphones où il y avait encore un fil et puis un roulette, machin. Et du coup, si vous prenez le petit... Ouais, avec des cadrans. Vous prenez le petit haut-parleur du téléphone, et bien le haut-parleur n'est qu'un micro inversé. Et donc, vous mettez un petit jack dessus et vous le branchez sur une table de mix. Et puis, vous pouvez parler dedans. Il y a un theremin qui est un...
Mais qu'est-ce qu'un theremin ?
Un instrument avec une antenne popularisée, en fait, créée par un russe qui s'appelle le Léon Theremin, on va dire. Theremin. Et pour les besoins de la cause, nous allons le dévoiler, voilà, pour l'ami photographe. Et il y a une antenne, et donc en rapprochant et en déplaçant sa main, eh bien la distance entre la main et l'antenne crée avec des ondes magnétiques du son. Oui, des choses comme ça.
Tu as de la soupe au chou de Bruxelles.
Et j'ai de la soupe au chou de Bruxelles de la maison Segers pour faire un peu de publicité. Donc ça, c'est pas loin du carré de Moscou. Un très bon endroit où on peut manger de la viande pour les non-végétariens.
Mais c'est pas de la soupe dedans.
C'est pas de la soupe. Il y a des boulons, en fait, qui sont reliés à un petit amplificateur qui
est... C'est de la soupe électronique.
C'est de la soupe électronique. Je te prierai d'être un peu plus
sympa avec vous. En fait. Envers tes anciens.
Et donc, en appuyant dessus, eh bien, notre corps fait contact avec ça. La même chose avec ce que j'ai, les petits trucs sur les bras, qui était un pareil, hein, ça s'appelle un body noise. Tout ça, ce sont des choses qui ont été créées par des gens. L'arsenophone a été créé par Jean Bender et Axel Delbord, qui mettent à disposition le circuit, comment vous-même pouvez le faire. Le body noise a été inventé par un collectif italien, je crois, Chimera Rossa, si je me souviens bien. En dessous, bon, voilà un autre dispositif.
Mais tu les as confectionnés toi-même sur base de plans?
Oui, voilà. Bah, j'ai pris un fer à souder. Je ne suis pas électronicien, je suis pas ingénieur son, mais à 12 ans, comme tout le monde, j'ai eu un cours de technologie et on m'a fait souder des trucs pour créer une lampe qui s'allume, qui est bien nulle. Mais alors qu'on peut faire plein de choses tout aussi chouettes avec 2-3 points de soudure. Donc,
t'es connecté de partout, c'est Rémi Brica de l'électronique.
C'est toujours par raison flatteuse.
Mais c'est vrai que ça fait tout un attirail de bidules et en fait c'est que du do it yourself et on se rend compte que finalement c'est pas si compliqué que ça et tu peux peut-être témoigner Arthur, toi qui a soudé pendant toute la semaine dernière dans un atelier de musique assistée par ordinateur.
Oui, la dictature du bruit peut aussi être son inverse, c'est-à-dire l'autogestion des sons et donc se créer un projet qui s'appelle Résonance, qui est en lien avec l'espace public numérique d'Ixelles, donc qui est situé dans la bibliothèque d'Ixelles, près de la place Fernand Koch. Ça fait 3 ans que ça existe, mais disons que voilà, cette semaine, il y avait pendant 4 jours une formation ouverte à tous sur l'utilisation d'outils qu'on dit libres, donc sur informatique au départ, donc musique assistée par ordinateur avec différents logiciels, mais aussi l'esprit de la musique libre, donc dans l'improvisation, dans le fait de pouvoir souder soi-même ses petits micros ou ses petits instruments. Et on était une vingtaine et les gens partageaient leur expérience, les gens venaient découvrir. Et c'est un très chouette lieu et c'est très ouvert, donc c'est de manière régulière les derniers vendredis du mois. Et vous venez avec ou pas de connaissances musicales.
C'est ça, c'est donné à tout le monde. C'est donné à tout le monde. C'est, je veux dire, moi, ça me fait très peur. Hein. Je vois tout ça, je me dis comment je pourrais faire do it me-même, tout ça, quoi.
Ben voilà, à un moment donné, il faut mettre les mains dedans et puis être accompagné.
On risque pas de s'électrocuter.
C'est du 9 volts. Donc tu peux, si tu veux, tu peux toucher une pile 9 volts, c'est à peu près ça que ça peut te faire. Tu veux essayer ?
Je sais pas, tu sais, tu crois ? On m'a déjà fait ça avec
les... Tu mets ça sur ta langue, et puis...
Non, tu sais les trucs de vaches, là, pour réveiller les vaches.
C'est un peu plus fort, les vaches.
Ouais, les vaches, c'est plus fort. Non, sur ta langue.
Non, ça va, merci. Merci beaucoup.
Moi, j'aime bien faire ça.
Oui.
Donc, on sent que vous vous amusez bien. Est-ce qu'il y a quand même une volonté de message derrière ça? Est-ce que vous êtes aussi engagé que ce festival Esperanza et votre engagement?
Mais tout à fait.
Au niveau du bruit, du son que vous produisez.
Mais, du bruit. J'ai trop parlé, mauvais du pain.
Ah oui, non, mais juste pour la question facile, c'est pour moi. Non, évidemment, on est engagé. Est-ce qu'on est engagé dans la production même par une part des outils, tout ça qu'on met en place, quoi, représente quelque chose dans la conception même? Au niveau de l'œuvre, qui est un mot qui a été donné tout à l'heure,
et qui est peut-être pas le approprié parfois.
Ouh, il revient, il est là.
Oui, il a changé de micro.
Ça, c'est Gérald à la mise en onde qui a fait un attentat de micro.
Ouais, il en avait marre. Je dois mettre les deux et faire un. Et je dois mettre le cache dessus.
Ça, c'est joli. Voilà. Bravo, Gérald.
Et donc,
mais ça, encore une fois, c'est la forme. Là, t'étais rentré dans le fond, Fred. Oui. T'arrêtes pas.
J'étais à fond
sur la forme.
À fond de fond là maintenant.
Ouais, c'est à fond de fond. Les bas fonds.
Donc au-delà de la forme des outils tout ça, enfin le fond, enfin l'origine même est un besoin, une volonté d'expression. Voilà, enfin voilà, donc cette expression est une réaction à manque d'espace pour le son. Et voilà, c'est aussi l'expression comme quoi n'importe qui peut faire. Enfin, mais donc le fond c'est plus pour dire, enfin dans mon sens, c'est montrer l'accessibilité et la réalité de la prise de parole, de la possibilité de prise de parole ou de la prise de l'espace sonore qui ne doit pas être commercialisé comme un des exemples cités de haut-parleurs ultrasoniques, qui ne doit pas être utilisé comme une arme avec quantité des autres exemples qui ont été donnés, qui est notre espace public avant tout, l'air qu'on a, qu'on respire.
En fait, c'est de la radio libre.
C'est de la radio libre sans
les mêmes
outils d'expression seront tout à fait ceux-là, oui, bien sûr.
On pourrait l'inviter,
oui, tout à fait.
Tout son est musique, hein. Et le bruit, en fait, c'est juste, le bruit est musique. Je veux dire, tout à l'heure, t'es de l'autre côté pour prendre du soleil, et il y avait, je sais pas, une souffleuse, enfin, une grosse machine et tout. Et puis on peut trouver ça dérangeant, et on peut aussi fermer les yeux et puis se dire qu'on est un peu percé par le rythme du zonzon.
Voilà, le subir ou l'appréhender. Merci beaucoup, alerte niveau 5. Peut-être que vous les entendrez à nouveau aléatoirement dans la grille de Radio Panique ou ailleurs, seul ou accompagné. On peut peut-être quand même, parce qu'on a un petit peu entendu des prénoms comme oui. Fred, comme Arthur, on peut aussi citer
Suzy qui a fait une série d'enregistrements. Qu'on a diffusé par moment.
Oui, et merci à elle, et merci à elle aussi pour tout le reste. Elle vient de quitter l'abbaye, mais
elle nous a quittés.
Mais ouais, grosse aide technique durant tout le festival. Donc merci à elle. Et quelque chose à rajouter?
Bonjour.
Voilà.